C'est une notion qui fait débat, une notion mal connue au cœur d'un texte examiné actuellement par le législateur. Ce texte, il s'agit d'une proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, déjà discutée à l'Assemblée nationale et au Sénat. Cette notion, c'est le contrôle coercitif, une violence psychologique et émotionnelle où une personne exerce un contrôle prolongé et oppressif sur une autre, souvent dans un contexte de violence familiale et conjugale. Alors, comment définir exactement et plus précisément cette notion? Faut-il l'intégrer au droit et de quelle façon? Pour en discuter, pour en débattre également, trois invités. Élodie Thuayon, bonsoir.
Bonsoir.
À vous, vous êtes avocate au barreau de Paris, spécialiste des questions de genre et de discrimination, enseignante à l'université Paris-Cité. Votre livre s'intitule « Entre guillemets, il faut faire confiance à la justice ». Il a paru le 6 mars dernier aux éditions La Meute. Face à vous, Andréa Gruet-Vintila, bonsoir.
Bonsoir Quentin Lafay.
Vous êtes maîtresse de conférences en psychologie sociale à l'université Paris-Nanterre et vous êtes l'autrice de ce livre intitulé dans son titre entier « Le contrôle coercitif au cœur des violences conjugales, des avancées scientifique aux avancées juridiques. Il a paru en septembre 2023 aux éditions Duno. Avec nous également Isabelle Rome. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes ambassadrice pour les droits de l'homme et pour la mémoire de la Shoah. Vous êtes magistrate, ancienne ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances. Vous êtes l'autrice de ce livre intitulé « Jouer ou tuer, la fabrique d'un féminicide » qui a paru ce mois-ci chez Michelon. Merci à vous trois d'être présentes ce soir dans Questions du soir.
Est fou. On a écouté le message et on est tombé des nues. On avait du mal à en croire nos oreilles.
Il a transformé tout ça en un véritable cauchemar qu'il appelle l'amour. Hier, j'ai failli y rester. Mon esprit s'embrouille. J'arrive plus à réfléchir. Je peux à peine respirer tellement j'ai peur.
On était tellement abasourdis qu'on a essayé de l'appeler. Mais Bertrand avait cassé le téléphone. Alors on n'a pas réussi à les joindre. J'ai dit à mon mari d'appeler le commissariat de Bordeaux, comme il parle un peu français, pour qu'ils aillent voir ce qui se passait chez eux. Mais Christina a refusé de le dénoncer.
Ça sert à rien de témoigner. Tel que je le connais, je suis sûre qu'il se suiciderait. Et alors les enfants se retrouveraient orphelins. Je réussirais pas à sortir indemne de tout ça.
Extrait d'un documentaire diffusé sur Netflix et intitulé de Rockstar à tueur, le cas Bertrand Cantat. On en rappelle brièvement l'affaire, en tout cas l'extrait précis que l'on vient de diffuser. Au-delà de Marie Trintignant, en 2007, Bertrand Cantat emménage avec son ex-femme Christina Radi. Une nouvelle tragédie survient en 2006 quand elle meurt, poussée au suicide, après avoir laissé d'inquiétants messages. Élodie Thuayon, comment cet extrait que l'on vient d'entendre, ce cas précis, ces messages, en l'occurrence, nous permettent d'approcher la notion de contrôle coercitif?
Il dit des choses qui, par exemple, comme « il a cassé mon téléphone »,« j'ai peur qu'il se suicide », ce qui peut faire entendre que c'est quelqu'un qui est coutumier, en tout cas, de menaces, hein, de porter atteinte à sa santé, à son intégrité, de se suicider, etc. Et donc, qui maintient l'autre dans une incapacité, en fait, dans une impossibilité, parce que pour agir, ça signifie qu'il faut prendre le risque d'être responsable de la mort de l'autre, hein, ce qui n'est en fait jamais le cas. Mais en tout cas, c'est une menace qui fonctionne extrêmement bien, le fait que donc il ait cassé son téléphone. Elle dit qu'elle n'arrive plus à respirer. Et ça, pour moi, c'est vraiment une traduction imagée, mais très concrète, hein, de ce que peut faire ce type de situation.
Andréa Gruet-Vintila, vous avez la même interprétation, la même analyse de l'extrait que l'on vient d'entendre et qui raconte la façon dont Bertrand Cantat s'est comporté avec son ex-femme, notamment.
Je trouve que c'est un extrait excellent que vous avez choisi, Quentin Lafay, parce qu'on entend l'appel à l'aide, on entend ce qu'Élodie Thuayon soulignait, c'est-à-dire la terreur totale dans laquelle elle vivait, enfin dans laquelle la femme vit. Et le fait qu'il ait cassé le téléphone comme moyen d'isoler la victime. Alors, moi, je voudrais dire quelque chose qui est important, c'est que vous avez dit que la notion est méconnue. Je voudrais souligner quand même la prise de conscience croissante au niveau mondial du contrôle coercitif. Et le fait que, pour moi, si j'ai écrit le livre sur le contrôle coercitif, qui est considéré comme le livre de référence en français, je l'ai fait parce qu'il me semblait important que les tiers qui entendent des appels à l'aide, donc je ne l'ai pas écrit pour les victimes ou encore moins pour les agresseurs, mais pour les tiers qui peuvent entendre ou peuvent ne pas entendre ou pas décrypter ces appels à l'aide.
Et ce les tiers, semblait... c'est l'entourage du couple, hein, c'est alors, les c'est amis, l'entourage, la famille proche.
C'est l'entourage du couple, mais c'est également tout un chacun. Et c'est également nos professionnels, nos institutions et notre État qui doit créer les conditions pour la reconnaissance de la violence conjugale pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un crime contre la liberté qui peut, si la victime désobéit à ce qui est attendu d'elle, conduire à sa mort, alors soit une mort à petit feu, soit un féminicide, comme on l'a entendu, on l'a vu avec Marie Trintignant, soit un suicide forcé, comme on l'a vu avec le cas de Christina Radic, dont vous avez passé l'extrait. Et nous avons des chiffres aujourd'hui, Madame la Ministre pourra le redire en tant que magistrate, ce qu'elle a constaté du lien entre le contrôle coercitif et ce que moi j'appelle les homicides conjugaux, parce qu'il y a les 1200 féminicides. Mais il y a aussi les suicides forcés, il y a aussi des enfants qui sont tués dans un contexte de violence conjugale. Il y a aussi des enfants qui sont orphelins parce que leurs mères sont tuées dans un contexte de violence conjugale. Donc, ce qu'il est absolument important de rappeler, c'est que la France compte 250 000 de plaintes pour violence conjugale, que sur ces plaintes, 85% sont des femmes. Et sur ces femmes, dans 8 cas sur 10, les agresseurs ont des enfants avec elles. Donc, d'une part, les enfants sont co-victimes. D'autre part, nous parlons de 4 millions d'enfants, c'est-à-dire un tiers des enfants scolarisés en France. Et c'est pour cela qu'il est urgent que l'Assemblée nationale, lorsque la loi arrivera bientôt, puisse revoir le travail qui a été fait au Sénat et incriminer l'ensemble de ces comportements comme infraction autonome.
On va revenir sur l'examen de ce texte. Je remercie par ailleurs Camille Mathy, la réalisatrice de cette émission, puisque c'est elle qui a trouvé l'extrait que nous avons diffusé. Je reviens, Isabelle Rome, sur la définition justement du contrôle coercitif. Revenons à l'essentiel, à la substantifique moelle. Comment est-ce que vous le définissez vous-même, ce terme-là ?
Alors, pour moi, c'est très important, justement, de le définir dans la loi, parce que je pense qu'il faut oser nommer les choses pour bien les traiter, pour bien les prévenir, pour les réprimer et pour mieux protéger les victimes. Et donc, c'est pourquoi, lorsque j'étais ministre, notamment, j'ai poussé pour travailler dans ce sens-là, et je me réjouis aussi aujourd'hui que le Parlement se soit emparé de ce sujet, la proposition de loi d'Aurore Berger lorsqu'elle était députée, et puis aujourd'hui les débats devant l'Assemblée et le Sénat. Et
sur la moi, définition elle, du
et
terme.
Et pour moi, donc, ce qu'il est important de montrer, c'est que ce contrôle coercitif, mais je pense qu'Andrea, qui est une spécialiste, pourra revenir là-dessus, c'est vraiment un cumul de comportements répétitifs qui vont détruire à petit feu la victime. Ce qu'on pourrait aussi dire, finalement, dans un langage simple, c'est un peu une violence invisible qui détruit peu à peu la victime. Et pour moi, je dis souvent, parce que je l'ai constaté comme présidente de cour d'assises, que le contrôle coercitif, c'est l'antichambre du féminicide. Et dans le livre que je viens de sortir, qui s'appelle « Jouer, tuer, la fabrique d'un féminicide », c'est vraiment quelque chose que j'ai pu constater. Et lorsque je présidais les assises, nous n'avions pas encore conscience de ce qu'était ce contrôle coercitif. Et c'est pourquoi l'apport des sciences humaines, il a été capital pour nous faire mieux comprendre ce mécanisme. Alors, je me disais, mais c'est toujours le même scénario que je constate. Et donc, en fait, ce que je constatais, c'était ces éléments cumulatif.
C'est quoi ce scénario,
alors,
justement,
peux,
ces
voilà,
éléments cumulatifs?
Donc je peux par exemple expliquer, même à travers le cas que je décris dans mon livre, c'est déjà une jalousie excessive. Ça, c'est, j'allais dire, on la trouve tout le temps. Mais j'allais dire vraiment excessive. C'est-à-dire, par exemple, il travaille la nuit, mais il va partir de son travail pour vérifier si elle n'est pas avec quelqu'un. Il va compter le nombre de gants de toilette quand il rentre du travail pour voir s'il n'y aurait pas eu un amant qui serait venu. Et puis, peu à peu, l'isolement de la victime, de son milieu familial, l'isolement de ses amis. Donc, isolement, ça fait vraiment partie de ce processus. Les humiliations successives. Bien sûr, donc cette jalousie excessive qui est, je pense, tout le temps présente. Et puis aussi, une forme de harcèlement, de géolocalisation, par exemple. Les SMS, ça peut être 200, 300 SMS par jour. T'es où? Tu fais quoi? Et puis... la dévalorisation de la victime, la mise sous cloche, comme vous l'avez dit. Enfin, voilà, on retrouve toujours, et moi j'ai jugé un certain nombre de féminicides, et chaque fois je retrouvais ces éléments. C'est pourquoi je trouve qu'il est important de pouvoir aujourd'hui les qualifier, les nommer, et se dire que ça, quand on retrouve ça, c'est extrêmement dangereux, et qu'il faut pouvoir protéger la victime quand on constate que ces éléments sont présents.
Élodie Thuayon, est-ce que vous corroborez cette définition ? Et je pense que c'est important à ce stade de la discussion de faire une distinction entre justement ce contrôle coercitif et le phénomène d'emprise. Qu'est-ce qui les distingue l'un et l'autre ?
Oui, alors, pour moi, c'est pas tout à fait la même chose. Le contrôle coercitif, on va avoir des situations... alors, je pense qu'on n'en a pas encore beaucoup parlé, mais je crois que c'est vraiment très important. Des situations donc de contrôle, d'isolement, de menaces économiques... Ça, c'est un très, très gros levier. Par exemple, obliger sa compagne à, alors par différents moyens, des coups, des menaces, du chantage au suicide, à verser l'argent de son salaire sur un compte, en fait, dont dispose exclusivement le conjoint. L'obliger à travailler d'une certaine manière dans un certain domaine. Parfois, ça peut aller jusqu'à des situations qui ressemblent un peu à de la traite, en fait, quasiment. Hein, où il y a presque une forme de proxénétisme, même s'il n'y a pas de, toujours de lien sexuel. Mais on va l'obliger, par exemple, à prendre des horaires de nuit parce que c'est payé double, alors qu'elle est complètement fatiguée parce qu'elle a déjà 3 enfants. Enfin, on porte atteinte à la liberté d'aller et venir, on va substituer les clés du véhicule, on va piquer le permis de conduire, ou alors on va instaurer une petite musique extrêmement insidieuse, consiste à dire, quand on prend la voiture avec sa compagne, parce que tout ça c'est très genré, hein, enfin on y reviendra.
Oui, quand vous dites on, c'est majoritairement très majoritairement
c'est
les hommes. Hein.
À la base, de toute façon, le contrôle coercitif, alors de mon point de vue, c'est un autre nom pour domination masculine. Voilà. Et je pense que ça part vraiment de l'idée des inégalités hommes-femmes dans la société et dans le couple. Bref. Donc, par exemple, vous allez vous installer avec votre compagne qui va prendre le volant. Et à chaque fois, vous allez faire des remarques en disant « Oh là là, j'ai peur avec toi, tu sais pas conduire, tu sais pas bien. » Tout ça, ça n'a l'air de rien. Mais en fait, quand c'est systématique et quand c'est répété, le résultat, à la fin, en plus, c'est magique. C'est la personne elle-même qui veut même plus conduire. Parce qu'en fait, c'est pas possible. Donc, c'est quelque chose, en fait, de qui peut être compliqué à faire valoir.
Andrea Gourev-Ventila, vous titrez, hein, justement, votre ouvrage, Des avancées scientifiques. C'est un morceau, en tout cas, du titre. Qu'est-ce que nous apprennent les sciences sociales en matière de contrôle coercitif? Qu'est-ce qui est effectivement établi dans ces phénomènes que l'on retrouve à une fréquence régulière, mais surtout avec des constantes?
Alors, la situation française décrite dans mon livre « Le contrôle coercitif » permet de dresser 3 constats. D'une part, les incriminations actuelles échouent à condamner et à responsabiliser les auteurs et à protéger les victimes. D'autre part, l'absence de sanctions favorise l'aggravation. Et la situation des victimes ressemble à ce qui vous a été dit par Madame la Ministre et Maître Thuayon, à une situation de captivité plus que d'agression. Alors, cette situation-là en France n'est pas unique. Confrontée au même dilemme d'autres pays, on va y revenir, l'Écosse, bientôt suivie par d'autres pays, ont adopté une loi, des lois pour incriminer le contrôle coercitif, c'est-à-dire de tenir compte de l'ensemble des comportements qui vous ont été décrits, pour définir la violence conjugale. Et donc, face à cette situation, ce que je montre, les recherches internationales que j'apporte dans mon livre, qui vont des neurosciences aux sciences de la santé à la psychologie sociale, clinique, et qui partent, non pas de la question de la domination masculine, qui partent des violences extrêmes que j'ai pu étudier lorsque je me suis intéressée au terrorisme et au totalitarisme politique.
Il faut rappeler effectivement que ce concept-là part du terrorisme et d'une analyse du terrorisme.
Hein. Alors, il part en réalité de l'étude du comportement sous stress extrême que vivaient les aviateurs américains prisonniers de guerre dans les années 50. Et c'est précisément par cet exemple qu'on peut illustrer la distinction entre l'emprise et le contrôle coercitif, en disant que l'emprise est entrée dans le langage, dans les débats parlementaires en 2010, lorsque la France a essayé d'incriminer la violence psychologique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le législateur avait déjà bien compris qu'il s'agissait d'une question qui allait au-delà de la violence physique, et oui, il était question de domination de l'un par l'autre. Sauf que nous n'ayons pas le cadre du contrôle coercitif en 2010 en France, il était ailleurs mais pas encore en France, le législateur a regardé qu'est-ce qui arrive du côté de la victime, comment elle est aliénée elle-même. Donc en fait, l'emprise nous a servi, et c'est un concept qui a servi à comprendre à tout un chacun, que la victime était sous domination. En revanche, le contrôle coercitif permet de braquer le réflecteur sur le comportement de l'agresseur par lequel il obtient l'obéissance comportementale sur la victime au sein du foyer, c'est-à-dire sur la femme et sur les enfants indissociablement, exactement par les mêmes procédés que les tortionnaires des camps ont pris la domination, enfin ont obtenu l'obéissance des aviateurs militaires américains dans les années 60, 50, pardon.
Lorsque l'on vous écoute tous les trois, on se dit que dans le fond, cette notion-là, elle vise d'abord la liberté de circuler, la vie privée dans ce cas-là de plus intime, la liberté aussi de gérer son argent. Et que le contrôle coercitif, ça a d'abord à voir à une atteinte aux droits fondamentaux, oui. Isabelle Rome.
Oui, c'est une atteinte aux droits fondamentaux. Et aujourd'hui, d'ailleurs, comme ambassadrice pour les droits de l'homme, je le perçois aussi comme ça. C'est-à-dire qu'effectivement, on l'a très clairement identifié dans les violences conjugales, et c'est très clair. Mais je pense qu'il y a d'autres situations. Et Andrea a parlé justement de la manière dont il a été repéré au début. C'est une situation qu'on peut retrouver dans d'autres contextes. Et c'est une atteinte aux droits fondamentaux, aux libertés fondamentales. Donc ça, c'est extrêmement important aussi de le rappeler.
Je voudrais vous faire entendre l'extrait d'un LSD, le témoignage d'Emma. Ce LSD est intitulé « Toutes des hystériques, la fabrique du silence » et il est signé Pauline Chanu.
Je me rappelle plus des dernières années où effectivement, à la fin, c'était vraiment « t'es qu'une pauvre merde, t'as qu'à crever ». C'est quelqu'un qui vous lâche jamais, qui était très très exigeant, donc la maison c'était jamais assez bien, c'était jamais assez beau, c'était jamais assez rangé, la cuisine c'était jamais assez bien, il fallait faire entrée, double entrée, plat, résistance, fromage, dessert, et rien n'était jamais à la hauteur, quoi que je fasse, rien n'était à la hauteur. Donc vous vous pliez en 4, vous pliez en 10, et à un moment vous y laissez aussi votre santé, parce qu'il fallait entretenir la maison, fallait faire un jardin magnifique, fallait gérer les enfants. Et à un moment, à force qu'on vous répète que vous êtes folle et que vous avez un problème, il est allé, je dirais, jusqu'au bout de sa destruction mentale, en fait. Et moi, je me suis pas rendu compte que je plongeais petit à petit et que je n'en pouvais plus, en fait, d'être isolée de ma famille. Il m'a isolée après le travail. Il m'a complètement contrôlée.
Quand on entend, comme à l'instant, ces formes du contrôle, les formes qu'elles prennent, comment est-ce que l'on peut traduire cette notion éminemment sociologique, hein, au départ, c'est ce que vous décrivez, hein, toutes les trois, cette notion sociologique en termes juridiques? Comment la traduire dans notre appareil juridique et judiciaire, Élodie Thuaillon?
Les premières tentatives pour le faire ont été des tentatives jurisprudentielles, hein, qui existaient donc avant, pour l'instant on n'a pas encore de texte, mais avant tout texte spécifique, en utilisant des appareils juridiques qui étaient déjà à disposition, et notamment au tribunal judiciaire de Sens, à la cour d'appel de Poitiers, y compris parfois en tenant les audiences pénal en même temps que les audiences du juge aux affaires familiales, donc les audiences civiles, pour permettre l'interaction en fait des outils qu'on avait à l'époque, violence, harcèlement, faute, enfin toutes ces choses-là, et en faire la traduction de ce contrôle coercitif.
Mais comment est-ce qu'on le caractérise, j'allais dire, même juridiquement, car l'enjeu, c'est pas de sanctionner, on l'imagine bien, la jalousie intense.
Non, pas du tout. On le caractérise, en fait, sur la base d'un faisceau d'indices, hein, comme la plupart du temps, en démontrant, par exemple, que, avec des témoignages, avec éventuellement des médecins, des attestations, avec des relevés bancaires, avec des papiers dont on voit qu'ils sont signés, en fait, par exemple, par monsieur, ou des éléments qui montrent que madame a signé sous une contrainte X ou Y, avec des SMS, avec plein de choses.
Andrea Gourev-Ventilla, vous souhaitiez réagir justement sur cette bascule du fait scientifique que vous décrivez à l'appareil juridique?
Je trouve que ce que vient de dire Maître Thuaillon est extrêmement important, parce que nous avons toujours des traces dans les dossiers. Ce que nous n'avons pas en tant que tiers, et que nos magistrats n'ont pas, hormis quelques juridictions françaises, c'est cette façon de regarder les faits ensemble. C'est-à-dire de leur donner une cohérence au-delà du fait isolé, de les mettre ensemble et de les penser ensemble et de penser leurs conséquences sur la personne qui est ciblée et les enfants.
C'est-à-dire qu'il faut apprendre à les lire, à les interpréter à nouveau ?
Le contrôle coercitif, c'est en ça que si on reste à la notion sociologique, évidemment que c'est difficile de traduire en droit. Mais si on en fait une notion psychosociale, nous, notre travail en psychologie sociale, c'est de regarder les interactions et de les regarder à partir des comportements observables. Et c'est en ça que le contrôle coercitif, c'est en ça aussi que le contrôle coercitif est une notion puissante parce qu'elle permet de faire voir la cohérence qu'il y a entre des comportements. Donc, c'est pour cela aussi qu'il est important, lorsqu'on parle de traduction dans le droit, de ne pas s'arrêter à l'incrimination autonome. Bien sûr qu'il faut incriminer, c'est-à-dire traduire en droit pénal et interdire cet ensemble de comportements. Mais il faut également en tenir compte probablement encore davantage qu'en droit pénal, en droit civil et notamment en droit de la famille. Pourquoi ? Parce que la majorité des femmes victimes, les agresseurs, dans 8 cas sur 10, je vous disais tout à l'heure, ils ont des enfants avec ces femmes. Et le fait d'avoir des enfants, c'est cela même qui permet au contrôle coercitif, qui leur permet de poursuivre le contrôle coercitif pendant très longtemps. Donc l'intérêt en droit français, c'est d'une part d'incriminer, de créer une infraction autonome, comme Madame la Ministre l'avait dit depuis un moment, mais également d'en tenir compte en droit de la famille, comme l'a fait la Cour d'appel de Poitiers, systématiquement en retirant l'autorité parentale total lorsque des enfants petits étaient concernés.
Parce que ce qu'il faut expliquer, pardonnez-moi, je vous coupe, ce qu'il faut expliquer, c'est que très régulièrement, même après la séparation, les enfants restent moyen de chantage et restent un moyen de prolonger cette coercition.
Alors c'est essentiel de comprendre que lorsque les agresseurs, dans 8 cas sur 10, ont des enfants avec ces femmes, le droit français leur ouvre une avenue pour continuer un harcèlement judiciaire au nom des droits parentaux qui a le fabuleux triple avantage d'épuiser les victimes physiquement, psychiquement et financièrement, et de les empêcher de dédier ses ressources aux enfants. Une définition simple du contrôle coercitif que donne Evan Stark dans la préface du livre français sur le contrôle coercitif, qui est probablement la plus simple au monde, c'est qu'il est une atteinte aux droits humains fondamentaux et aux ressources des victimes. Aux ressources des victimes, entendu ressources économiques, mais également ressources sociales, c'est-à-dire les liens sociaux qu'elle peut avoir en famille ou avec les amis, ressources matérielles. À partir du moment où une victime se trouve atteinte, une personne se trouve atteinte dans ses liens, dans ses moyens matériels, nous pouvons très raisonnablement poser l'hypothèse en premier du contrôle coercitif, renforcer le lien mère-enfant et être sûr de protéger les enfants avec les mères, et puis être sûr de pouvoir... Mais pour que ça puisse arriver, nous sommes obligés d'améliorer la formation de nos magistrats et de tous leurs partenaires, force de l'ordre.
On va y revenir. Isabelle Rome, vous souhaitez réagir?
Moi, je pense qu'il y a deux termes qui sont très importants quand on parle de contrôle coercitif, c'est celui de terreur et c'est celui de globalité. Terreur, parce que quand on a un conjoint qui place l'autre dans une situation de contrôle coercitif, c'est bien sûr sa conjointe qui le place sous la terreur, mais toute la famille. Donc ça, je pense que c'est extrêmement important. Et la globalité, ça veut dire une série de comportements cumulatifs, mais aussi, la globalité dans la famille. Et c'est pourquoi, moi j'ai beaucoup milité pour que les pôles spécialisés pour les violences intrafamiliales soient mises en place dans chaque juridiction, donc ce qui est le cas depuis un peu plus d'un an. Donc il faudra voir comment, tout cela se met en place de manière très effective. Mais justement, l'idée de ces pôles spécialisés, c'est d'éviter les discordances entre des décisions d'un juge aux affaires familiales, d'un juge pénal, pour préserver justement c'est la protection de la famille et donc enfin de la famille, c'est-à-dire la protection de chacun des individus au sein de la famille, et donc ça je pense que c'est très important. Et définition légale, elle est importante, mais effectivement aussi la formation. Mais moi, j'insiste beaucoup sur le fait que c'est bien sûr formation des magistrats, des policiers, des gendarmes, des avocats, mais aussi des travailleurs sociaux. Ce sont vraiment des soignants. Ce sont vraiment tous les acteurs de la chaîne qui doivent être formés. Sinon, on laisse les personnes en danger. On laisse des femmes et des enfants en danger. C'est pourquoi la notion de contrôle coercitif, elle est importante en civil. pour les ordonnances de protection, parce que justement, si on identifie ce contrôle coercitif, eh bien, le juge aux affaires familiales pourra aussi plus facilement prononcer des ordonnances de protection et donc des éloignements du conjoint violent.
Justement, en tant que praticienne du droit, toutes les deux, Elodie Toyon et Isabelle Rome, est-ce que vous avez vu récemment dans chacune de vos professions, avocate, magistrate, est-ce que vous avez le sentiment que les choses ont évolué, qu'on appréhende mieux cette notion de contrôle coercitif d'abord, ou même au-delà, ces indices que vous décrivez, ces faisceaux de faits, est-ce qu'on est capable de les réinterpréter d'une façon qui vont à l'encontre de la personne qui commet des actes délictueux?
Alors, on aura peut-être des réponses un peu différentes.
Isabelle Rome, pour commencer, voilà. Ensuite Elodie Toyon.
Je pense que de plus en plus, quand même, les magistrats sont sensibilisés, les formations ont été renforcées, mais néanmoins, je pense que cette notion-là, elle est encore très méconnue. Et justement, parce qu'elle n'est pas définie, et vous savez qu'un juge, et c'est bien normal, et c'est tant mieux comme ça, il a besoin de définitions légales. Sinon, ça veut dire qu'il est dans l'arbitraire et c'est la fin de l'état de droit. Donc, moi, je suis la première. C'est pour ça que je dis qu'il faut définir les choses. Et donc, c'est pour ça que je dis que si le juge, il pouvait s'appuyer sur une référence légale, il pourrait aussi mieux protéger les victimes, et notamment au civil, parce que ça, c'est quand même ce qui peut intervenir en amont, avant les passages à l'acte extrêmement dangereux.
Élodie, tu as votre sentiment, votre témoignage même.
En fait, nous, c'est forcément différent, puisqu'au cabinet, on prend les choses quasiment au début, si je puis dire. Il faut bien constater que l'entrée en fait du dossier c'est la plainte qui est pas toujours déposée avec un avocat ou avec une avocate, qui peut être déposée dans un cas de flagrant délit au terme de violence physique particulièrement importante, et c'est là en fait que ça va pêcher tout de suite, puisque entre le fait que les parquets, donc qui sont les procureurs, qui ont une obligation finalement, enfin moi je le répète toujours, mais malheureusement une obligation plutôt de faire du tri en fait et d'essayer de pas accroître l'inflation en fait des dossiers, parce que plus personne n'a les moyens de traiter correctement quoi que ce soit aujourd'hui en France, et le fait que donc il y a une énorme délégation finalement de la gestion de base des dossiers et même finalement de leur orientation à des policiers ou à des gendarmes eux aussi la plupart du temps sont débordés c'est une population aussi dans laquelle malheureusement, je le répète, mais il y a beaucoup de violents conjugaux, donc ce qui est aussi problématique, donc, et qui en plus sont pas forcément formés, nous au cabinet, ce qu'on voit arriver plutôt, c'est carrément la dernière fois une médiation pénale, quoi.
Alors c'est interdit.
Il faut.
Médiation pénale, il faut nous expliquer d'un mot quoi il s'agit.
Isabelle peut.
Non, non, mais expliquer la médiation pénale. Allez-y,
vous passez devant la personne mise en cause. Donc, en général, l'enquête est extrêmement sommaire, même quand vous avez des drapeaux rouges, si je puis dire, à toutes les lignes. Extrêmement sommaire. Le parquet regarde vite fait et on va décider que, on va diriger monsieur, puisque l'auteur, c'est quasiment toujours un homme, monsieur, vers ce qu'on appelle un délégué du procureur, et en gros, qui va m'adopter quelque chose qui n'est même pas vraiment une peine, où la victime va peut-être, dans certains cas, être entendue, etc., éventuellement convoquée, et qu'ensuite, c'est une machine pour nous, avocats, à laquelle il est extrêmement difficile de faire marche arrière. C'est-à-dire que ce sont des gens, concrètement, qui commettent des faits qui sont extrêmement graves et qui vont sortir avec une petite tape sur les doigts, quoi.
Juste que la médiation pénale, elle est interdite depuis la loi du 30 juillet 2020, et je le sais pour l'avoir particulièrement portée au ministère de la Justice, c'est interdit par la loi.
Merci
de même que la médiation civile est interdite dans les cas de divorce, etc., quand il y a des violences conjugales, justement parce qu'il n'y a pas une égalité entre les parties, puisqu'il y en a une qui est sous le contrôle de l'autre, et que donc il n'y a pas de transaction possible. Donc, en fait, il faut vraiment ne pas cesser de répéter que c'est interdit.
Sandrine Josseau, la députée, présente son amendement. On l'écoute dans le cadre de cette proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les violences sexuelles et sexistes.
Cet amendement vise à créer une nouvelle infraction en cas de contrôle coercitif. Il a été travaillé avec des experts, dont Andrea Grouvintila, auteur de l'ouvrage référence sur ce sujet, présent en tribune, des spécialistes, des associations, des universitaires et des juristes. Il propose la définition la plus exhaustive et la plus aboutie du contrôle coercitif en droit comparé. Il n'a pas été transposé, mais transadapté à notre droit français pour tenir compte de la spécificité de notre système. Il est précis pour respecter le principe de la légalité pénale. Une femme qui est victime de contrôle coercitif est une femme qui se trouve comme enfermée dans une cage à raison d'actes d'isolement, d'intimidation, de harcèlement, de menaces sur elle et ses enfants, de surveillance, de contrôle de ses ressources financières, tout cela pour obtenir une soumission.
Cette proposition de loi telle qu'écrite par les députés, les sénateurs ensuite la détricoteront, mais telle qu'écrite par les députés a permis d'ériger le contrôle coercitif en délit. Andrea Grueff-Vintila, est-ce que pour vous c'est une avancée, mais je veux dire une avancée effective?
Alors, je voudrais déjà saluer mes complices dans la rédaction de l'amendement, qui sont le professeur de droit pénal, professeur agrégé de droit pénal et sciences criminelles Benjamin Morand-Puech et Alice Dejean de la Bâtie, qui est professeure de droit à l'université de Tilburg. Et saluer la confiance que nous ont fait les députés, parce que nous avons écrit cet amendement littéralement en 10 jours et entre nos cours.
C'est vous qui l'avez écrit alors, si je comprends bien ce que vous dites.
Nous l'avons travaillé ensemble, nous l'avons proposé à Madame Josso, qui l'a parfaitement défendu, puisque ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a été adopté de manière transpartisane. Alors, il n'était pas parfait. On savait qu'il n'était pas parfait, on l'a écrit en 10 jours, bon, entre les cours.
Qu'est-ce qui va permettre concrètement ?
Il permet déjà de tenir compte de l'ensemble des comportements qui peuvent se déployer pour obtenir la soumission comportementale d'une victime, contrairement à ce qui a été retenu par la commission des lois et puis finalement voté par le Sénat, qui se limite à des moyens de pression et de menaces psychologiques, économiques et financières. On va peut-être y revenir. Mais surtout, il assortissait l'incrimination autonome du contrôle coercitif, de cet ensemble des comportements, d'un amendement civil qui permettait au juge d'affaires familiales de s'équiper d'une vision claire sur les affaires qui viennent d'être décrites par Madame la Ministre et Maître Thurion-Hibon pour ne plus confondre des situations de violence définies par le contrôle coercitif avec des conflits de couple, parce que c'est ce qui se passe et c'est souvent dans ces cas-là qu'on se retrouve avec des médiations entre une victime et son agresseur. Et donc je voudrais saluer le fait que des universitaires aient été entendus et qu'on ait été convoqués pour travailler sur cette question, parce que nous avons associé des associations, nous avons travaillé avec des experts internationaux qui ont contribué aux lois dans les autres pays. Et ce qui me semble important, c'est que nous avions assorti également l'amendement donc pénal et civil, donc on a eu une approche transversale en droit par rapport au contrôle coercitif. Nous avons également joint une obligation de formation et une obligation d'évaluer la loi à 2 ans, 5 ans et 10 ans pour pouvoir l'ajuster comme dans les autres pays.
Élodie Thuayon, est-ce que vous-même, tel qu'il a été rédigé, cet amendement-là vous convient dans sa forme et même dans sa substance? Est-ce qu'il va permettre concrètement de changer les choses, d'avancer sur ce concept de contrôle coercitif?
Oui, je pense que de toute façon, c'est une avancée. Alors, bien sûr, il n'y a jamais aucune proposition qui est parfaite. Et bon, il y a des choses à... De toute façon, le docteur Grueff-Vintila le dit elle-même, il y a des choses à modifier. Hein. C'est bon, mais ça a déjà ça avait le mérite d'exister, puisque si j'ai bien compris, ça a été supprimé au Sénat. Exit, voilà.
La navette parlementaire fera peut-être en sorte que cela revienne à l'Assemblée nationale.
Il faut l'espérer, parce que c'est quand même assez grave en 2025 d'avoir une chambre dite haute qui visiblement est encore assez, si je puis dire, à côté de la plaque en termes de violence conjugale, parce que c'est ça aussi, c'est ça dont on parle. Alors je sais que là-dessus on n'a pas forcément le même avis. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est de ne pas perdre de vue que le berceau des dominations, c'est la famille, quoi. C'est le couple, hein, vraiment. Ça, on le dira jamais suffisamment. Je pense, avec d'autres, je ne vais pas citer tout le monde, mais que c'est la domination patriarcale qui a servi de modèle à la domination militaire qui a été exercée en Corée contre les militaires américains, et pas l'inverse. Et que c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas perdre de vue, qu'il faut continuer de détricoter, en fait, à tout prix. Voilà.
Isabelle Rome, est-ce que les magistrats attendaient, ou du moins est-ce que c'est ce dont ils ont besoin, cette notion telle qu'elle est inscrite par l'Assemblée nationale et telle qu'elle reviendra peut-être par la grande porte à l'Assemblée encore?
Oui, je pense que c'est un bon outil, comme je vous le disais, parce que la définition légale, c'est un outil indispensable pour un magistrat. Donc pour moi, ça va vraiment dans le bon sens. Ce que j'aimerais peut-être juste rajouter aussi pour les auditeurs par rapport à cette notion de contrôle coercitif, c'est que la violence, c'est pas qu'une gifle. Voilà. Et parce que moi, je l'ai vu dans des dossiers, alors non pas de féminicide, mais de violence conjugale, c'est que par exemple, parce que justement, on n'avait pas connaissance de ce contrôle coercitif, vous avez par exemple la poursuite d'un homme pour une gifle qui a causé une incapacité de travail de moins de 8 jours. Bien sûr que c'est grave, mais c'est pas extrêmement grave. Et donc ça donne lieu à une petite peine et peut-être même sans suivi, sans obligation de soins, etc. Alors que quand vous lisez bien le dossier, eh ben vous trouvez exactement, effectivement, tous les comportements exactement que nous venons de décrire. Et en fait, on se rend compte que la victime, elle était dans une situation de grand danger, de grande violence psychologique, financière aussi, mais pour moi, on met tout, ensemble, justement, dans cette globalité du contrôle coercitif. Mais finalement, on retient que cette petite gifle, qui n'est pas justement à la hauteur de l'ampleur de la violence subie. Et donc moi, le message que je voudrais faire passer, c'est que la violence psychologique, elle est aussi destructrice que la violence physique, que c'est la fabrique du féminicide, et que pour avoir jugé quand même un certain nombre de féminicides, dans un certain nombre de cas que j'ai jugés, il n'y avait jamais eu de passage à l'acte physique avant le passage à l'acte fatal, c'est-à-dire avant le féminicide, mais des mois ou des années de contrôle coercitif.
Alors, souvent,
Donc ça, je pense que c'est important à rappeler.
Une réaction
très courte. Souvent, quand même, il y a ce qu'on appelle des viols conjugaux, qui sont vraiment des choses qui passent, qui sont très mal connues également, et qui passent totalement en dessous des radars. Et je voudrais dire aussi un mot sur un comportement qui, à mon sens, en fait partie et qui devrait être appréhendé. Alors, je ne sais pas comment, mais le fait aussi d'infliger finalement des adultères, pour employer un terme technique, répéter à sa compagne pour la contraindre d'une manière ou d'une autre à avoir des comportements sexuels qu'elle ne veut pas adopter sinon. C'est-à-dire, par exemple, vous passez
imposer
votre temps...
Imposer des adultères, ça veut dire on demande à ce que
en fait,
que
vous passez votre temps à la tromper. Non, vous passez votre temps à la tromper, d'accord, vraiment de manière débridée. Hein, je ne parle pas d'un couple libre, libertin, etc. Je ne parle pas de ça. Vous la trompez sans arrêt. Donc d'abord, vous l'humiliez, vous finissez par la dénigrer, vous dégradez son psychisme, etc. Et vous finissez toujours par lui dire, oui, mais bon, si tu me faisais ça ou si tu me faisais ça, je n'aurais pas besoin d'aller voir ailleurs. J'ai des besoins, j'ai ceci, j'ai cela. Et ça, c'est une dimension qu'on passe totalement sous silence, puisque, comme vous savez, la France est un pays latin, grivois, etc., etc. Et donc, cet aspect des choses, il est encore complètement...
Mis sous le tapis. André Gouet-Ventilla, d'un mot, vous évoquez tout à l'heure le sujet des enfants qui restent, malgré la séparation, au cœur justement de ce contrôle-là. Est-ce que cela veut dire qu'après la séparation, il faut empêcher les pères de voir ces enfants, les pères qui ont été reconnus violents avec leur ex-compagne?
Alors, il ne s'agit pas d'empêcher les pères de voir leurs enfants. Il s'agit de tenir compte du besoin fondamental de l'enfant, qui est le besoin de sécurité. Un enfant ne peut se développer que s'il est en sécurité. Il ne peut se développer correctement que s'il est en sécurité. Or, qu'est-ce que nous montre le travail sur le contrôle coercitif ? Je l'aborde dans mon livre, mais le dernier livre du professeur Evan Stark le dit très clairement, que le contrôle coercitif des femmes par les hommes est la cause et le contexte le plus important des violences envers les enfants hors zone de guerre. C'est-à-dire violence physique, violence psychologique, violence sexuelle, violence économique, ainsi de suite. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le risque pour les enfants dans ces situations-là ne peut être déchiffré qu'à la lumière du contrôle coercitif sur la mère.
Merci à toutes les trois de ces explications, de nous avoir éclairé sur cette notion importante de contrôle coercitif. Élodie Tuaillon, Andrea Gouret-Ventilla, Isabelle Rome. Merci encore à toutes les trois.
Merci
à vous.